Chapitre 34. Une tasse de caf. Fourik Karédé, le poing sur le cœur, rendit son salut aux gardes et fit mine de ne pas le voir cracher au sol sur son passage. Les 80 hommes et les 21 augiers qui le suivaient, espéra-t-il, feraient de même. C'était recommandé, s'ils savaient ce qui était bon pour eux. Karédé étant là pour s'informer, un massacre lui compliquerait la vie. Depuis que son aide de camp, Ajimbura, avait transpercé le cœur d'un porte-étendard pour une insulte supposée, en réalité une véritable injure, mais Ajimbura, comme son chef, aurait dû savoir se retenir, il s'était résigné à chaque visite dans un camp à le laisser dans la forêt, avec les souldames, les damans et les quelques gardes de la mort chargés de surveiller les bêtes de bât. Depuis Eboudar, Karédé avait parcouru un long chemin à la poursuite du vent. Plus de 4 semaines à traquer des rumeurs, jusqu'à ce que de véritables nouvelles l'amènent dans ce camp, au centre de l'Altara orientale. Les impeccables rangées de tentes de couleur claire se dressaient dans une clairière assez grande pour que des rakens y atterrissent. Mais on ne voyait pas trace de pilotes, de rakens, ni de personnel au sol, avec les chariots d'intendance habituels et les nombreux palefreniers à rakens. Cela dit, Karédé n'avait pas non plus aperçu de rakens en vol depuis un bon moment. Sans doute parce que tous avaient été envoyés à l'ouest. Enfin, peut-être. Il l'ignorait et s'en fichait. La haute dame, voilà tout ce qui l'intéressait. À la fois son objectif et son univers. Un haut et fin mât de messages projetant son ombre sous le soleil matinal, il devait bien y avoir des rakens quelque part. Ce camp, estimait Karédé, abritait un bon millier d'hommes, sans compter les maréchaux ferrants, les cuisiniers et les autres employés de ce genre. Détail intéressant, ici, tous les soldats portaient l'armure familière du pays, pas le plastron et le casque à visière du cru. La doctrine étant de renforcer les troupes avec les indigènes, ça méritait d'être noté. Dans le même ordre d'idées, le port de l'armure en disait long sur la situation. Très peu de commandants l'imposaient à leurs hommes, quand il n'y avait pas de l'action dans l'air. Selon les rumeurs collectées par Karédé, c'était peut-être le cas ici. 3 hampes d'étendards signalaient la tente de commandement, presque un pavillon avec des évents, autour du toit pointu qui servait aussi à évacuer la fumée. Par une matinée assez clémente, il n'était pas mis à contribution. Sur une des hampes, l'étendard impérial était en berne, interdisant de voir le faucon d'or aux ailes déployées qui tenait un éclair entre ses serres. Certains commandants l'accrochaient à un mât horizontal afin que le symbole soit toujours visible. Selon Karédé, c'était ostentatoire. Les 2 autres étendards, fixés à des hampes plus courtes, étaient ceux du régiment cantonné ici. Karédé mit pied à terre et retira son casque. Quand il l'eut imité, le capitaine Musenge révéla l'expression sinistre qui assombrissait son visage tanné par le soleil. Les autres cavaliers descendirent aussi de leur monture, histoire qu'elle se repose. Les jardiniers s'appuyèrent aux manches de leurs longues haches ornées de pompons, l'arme typique des augiers. La pause ne serait pas longue, tout le monde le savait.
Musenge, fais en sorte que les hommes se tiennent tranquilles. Si ça implique de ne pas broncher sous les insultes, qu'il en soit ainsi.
Si on tuait quelques-uns de ces types,
marmonna Musenge,
les autres se montreraient plus courtois.
Même s'il n'y avait pas une touche de gris dans ses cheveux, le capitaine servait dans la garde de la mort depuis plus longtemps que Karédé. Quant aux insultes, il aurait préféré qu'elle vise l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, plutôt que ses soldats et son corps d'armée. C'était tout dire. Avec un index de la taille d'une grosse saucisse, Arta lissa sa longue moustache grise. Premier jardinier, et donc chef de tous les augiers membres de la garde rapprochée de la haute dame Tuon, ce gaillard, à pied, était presque aussi grand qu'un homme perché sur un cheval. Très large d'épaule, il portait une armure dans laquelle on aurait pu en faire une pour 3 ou 4 humains. Aussi sinistre que Musenge, il parlait pourtant d'un ton serein. Les augiers étaient toujours calmes, sauf sur les champs de bataille. Là, il devenait aussi froid que le milieu de l'hiver à Djeranem.
Quand nous aurons sauvé la haute dame, Musenge, nous pourrons tuer autant de ces pouilleux que nous voudrons.
Rappelé à son devoir, le capitaine rougit de s'être laissé aller.
Quand nous l'aurons sauvé, oui.
Pour s'autoriser un soupir, Karédé s'était bien trop discipliné au fil des ans, après avoir été formé à la dure par ses instructeurs. mais s'il n'avait pas été un garde de la mort, lui aussi se serait laissé aller. Pas parce que Musenge, comme tous les autres, avait des pulsions meurtrières, mais parce que les insultes subies ces dernières semaines lui tapaient autant sur les nerfs qu'à ses subordonnés. Mais les gardes de la mort étaient au-dessus de ça. Si leur mission l'imposait, ils pouvaient laisser en paix des salopards qui crachaient sur leur passage, ou, pire encore, qui parlaient de baisser les yeux à voix haute pour être entendus. Trouver et libérer la haute dame Juan. Cela seul comptait, et le reste n'importait pas. Casque calé sous un bras, Karede entra sous la tente où une bonne partie des officiers du camp étaient réunis autour d'une carte d'état-major. La moitié de ces hommes portaient un plastron laqué segmenté à rayures horizontales rouges et bleues, les autres arborant du rouge et du jaune. Quand ils virent Karede, tous se redressèrent. La peau plus noire que du charbon, certains venaient de Kowil ou de Dalenchar. Plus clairs de teint, d'autres étaient originaires de Enkon, et d'autres encore, aux cheveux blonds et aux yeux clairs, venaient de Metchoacan ou encore d'Alquam. Toutes les régions de l'Empire. Dans leurs yeux, Karede ne lut pas la méfiance mêlée d'admiration qu'il avait l'habitude de voir depuis toujours. Non, là, c'était du défi. Tout le monde, semblait-il, croyait à la répugnante histoire où des gardes de la mort, complices d'une fausse haute dame Tuon, avaient extorqué de l'or et des bijoux à des commerçants. Sans nul doute, les gens gobaient aussi la rumeur qui courait sur la fille en question, aussi vile que répugnante celle-là. Non. Prétendre que la vie de la haute dame était menacée par l'armée du Seanshan était bien plus que vil et répugnant. Le symptôme d'un monde devenu fou, voilà ce que c'était.
« Furik Karede !»
se présenta le général de bannière des gardes de la mort. D'instinct, sa main aurait volé sur la poignée de son épée, mais la discipline prit le dessus, et le sens du devoir. Pour être à la hauteur de sa mission, il avait encaissé des coups d'épée. S'il le fallait, il avalerait des insultes.
« Je veux parler au commandant de ce camp. »
Un long silence s'ensuivit.
« Tout le monde dehors !»
ordonna enfin un grand type avec l'accent typique de Dalenchar. Les officiers saluèrent, récupérèrent leurs casques sur une table et sortirent. Aucun ne daigna saluer Karede. Sa main droite frémit, sentant sous ses doigts une poignée fantôme, et resta où elle était.
« Gamel Loun !»
se présenta le commandant. Sur ses cheveux crépus noirs grisonnants, une cicatrice blanche correspondait parfaitement au morceau d'oreille qui lui manquait.
« Que voulez-vous »
demanda-t-il, une infime nuance de méfiance dans la voix. Un homme dur qui se maîtrisait presque parfaitement. Les trois plumes rouges qui ornaient son casque, posées sur un râtelier à épée, il ne les avait pas gagnées à la loterie. Les faibles qui manquaient de contrôle de soi n'atteignaient jamais le grade de général de bannière. Si Loun acceptait de lui parler, paria Karede, c'était sûrement parce que son propre casque arborait trois plumes noires.
« Pas me mêler de vos affaires !»
répondit Karede. Gamel Loun avait des raisons de le craindre. Dans la garde de la mort, les grades étaient un demi-rang au-dessus de ceux des autres corps d'armée. S'il l'avait voulu, Karede aurait pu partager le commandement avec Loun, même s'il aurait dû justifier sa démarche après coup. Pour ne pas finir la tête sur le billot, il aurait dû avoir d'excellentes raisons d'agir ainsi.
« J'ai cru comprendre qu'il y a eu des difficultés dans cette région de l'Altara. Très récemment, paraît-il. Je veux savoir dans quoi je mets les pieds.
»« Difficultés ?»
grogna Loun.
« C'est un euphémisme. »
En veste d'uniforme marron, un costaud à la barbe en pointe entra sous la tente, avec un plateau de bois sculpté où reposait une carafe d'argent et deux tasses blanches de campagne, du genre qui ne se cassait pas facilement, même avec les chaos d'un chariot. L'odeur du caf frais monta aux narines de Karede.
« Votre caf, général de bannière !»
annonça l'aide de camp. Posant le plateau sur le coin de la table où était déployée la carte, il remplit une tasse de liquide noir sans quitter Karede du regard. Pas loin de l'âge mûr, le type portait deux longs couteaux à la ceinture, et le cal, sur ses mains, indiquait qu'il s'en servait souvent. Une sorte de cousin d'Ajimbura, dans l'esprit, sinon dans le sang. Avec des yeux marron foncé pareil, on ne pouvait pas venir des collines de Kaen Sada.
« J'ai attendu le départ des officiers, parce qu'il y en a juste assez pour vous. Et ne me demandez pas quand j'en retrouverai, vu que je l'ignore. »
Il parlait du CAF, bien entendu.
« Vous en voulez, Karede ?»
demanda Loun à contre-cœur. Une réaction compréhensible, mais il ne pouvait pas ne pas proposer une tasse à son visiteur. pour une insulte de cette gravité, Karede aurait été obligé de le tuer. En tout cas, c'était ce que croyait son hôte.
Avec plaisir, oui.
Posant son casque à côté du plateau, Karede retira ses gants et les mit dessus. L'aide de camp remplit la seconde tasse et fit mine de prendre place dans un coin de la tente.
Ce sera tout pour le moment, Mantual,
dit Loon. Le colosse hésita, les yeux rivés sur Karede, puis il salua son chef, se touchant les yeux et les lèvres du bout des doigts, et se retira.
Mantual me surprotège,
lâcha Loon. À l'évidence, il ne voulait pas s'étendre sur le sujet, mais il tenait à ce que son invité ne se sente pas insulté.
Un type étrange. Il s'est attaché à moi il y a des années, du côté de Pujili. Puis il a réussi à devenir mon aide de camp privé. Je crois qu'il resterait même si je cessais de le payer.
Oui, un cousin d'Ajimbura. Un moment, les deux hommes savourèrent leur kaf, se régalant de son goût amer. Une variété des monts Ijaz, notoirement hors de prix. La réserve de Karede, d'une provenance plus modeste, était épuisée depuis une semaine. Manquer de kaf, avait-il découvert, était une torture. Étrange, pour un homme qui se passait aisément de tout. La première tasse bue, Loon refit le service.
« Vous alliez me parler des difficultés, » dit Karede.
Relancer ainsi la conversation après le partage du kaf n'avait rien d'impoli. Même avec les hommes qu'il allait tuer, Karede s'efforçait de rester courtois. Dans le cas présent, toute brutalité aurait incité Loon à se taire. Pour l'heure, il posa sa tasse sur la table, puis y appuya les coudes et, le front plissé, baissa les yeux sur la carte. Des marques rouges munies d'étendards miniatures y étaient disposées, symbolisant les forces anshaniennes en mouvement. Les étoiles rouges, elles, signalaient les troupes stationnaires. Quant aux disques noirs, ils indiquaient des batailles, et il y en avait beaucoup. Bizarrement, aucun disque blanc ne représentait l'ennemi.
« Rien que la semaine dernière, »
dit Loon.
« Il y a eu 4 engagements massifs, et plus de 60 embuscades, escarmouches ou raids, et ce dans un rayon d'une centaine de lieues. »
À savoir, quasiment la carte tout entière. Loon parlait d'un ton forcé. S'il avait eu le choix, il n'aurait rien dit. Mais le différentiel de grade ne lui en laissait pas le loisir.
Du côté adverse, il doit y avoir entre 6 et 8 armées impliquées dans ces opérations. La nuit suivant la première bataille rangée, il y a eu 9 raids d'importance, tous entre 10 et 12 lieues du site de l'affrontement. Il ne s'agit donc pas de petits détachements, mais de grosses armées. Pourtant, impossible de les localiser. Et personne n'a la moindre idée de leur provenance. Quoi qu'il en soit, elles ont avec elles des damanes, ici on dit Aes Sedai, et peut-être même des fichus Ashamans. En outre, certains de nos hommes ont été déchiquetés par des explosions qui, selon nos damanes, n'étaient pas provoquées par le pouvoir.
Karede sirota son kaf. Loon ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Si l'ennemi avait des Aes Sedai et des Ashamans, il pouvait recourir à ce qu'il appelait « voyager » pour se déplacer à volonté et à toute vitesse. Mais dans ce cas, pourquoi les ravisseurs de la Haute Dame ne s'étaient-ils pas propulsés en sécurité avec leurs prisonnières? Parce que les Aes Sedai et les Ashamans ne savaient pas tous voyager? Certes, mais ça entraînait une autre question. Pourquoi ne pas avoir choisi pour cette mission ceux qui en étaient capables? Parce que les seuls Aes Sedai disponibles étaient les Damanes volés au palais Tarasin? D'après ce qu'on disait, aucune de celles-là ne savait voyager. Oui, ça tenait la route.
Que disent les prisonniers sur leur commanditaire?
Loon eut un rire amer.
Pour avoir pléthore de prisonniers, il faut des victoires en série. Et nous enchaînons les défaites.
Loon reprit une gorgée de kaf, puis il parla d'un ton plus détendu, comme s'il avait oublié la couleur de l'armure de Karede. Un soldat qui discute boulot avec un autre.
Gourat a cru pouvoir faire des prisonniers il y a 2 jours. Résultat, il a perdu 4 compagnies de cavaliers et 5 de fantassins. Presque jusqu'au dernier homme. Tous ne sont pas morts, mais la plupart des blessés ne valent guère mieux. Cribés de carreaux d'arbalète. Pour l'essentiel, des tarabonais et des amadiciens, mais ce n'est pas censé importer, pas vrai? Pour faire un tel massacre, il a fallu au moins 20 000 arbalétriers. 30, peut-être. Pourtant, ils réussissent à se cacher des Moratraken. Je sais que nous leur avons infligé des pertes, selon les rapports en tout cas, mais ils emportent les corps de leurs camarades. Des idiots racontent que nous affrontons des fantômes.
Des idiots? Alors pourquoi faire de la main gauche le geste qui conjurait le mauvais sort ?
J'ai une certitude, Karedi. Leurs officiers sont sacrément bons. Les nôtres ont été dominés de la tête et des épaules.
Karedi acquiesça pensivement. Il supposait depuis le début que la Tour Blanche avait choisi un des meilleurs agents pour enlever la haute dame Tuon. Mais il n'avait jamais envisagé l'implication de ce qu'on appelait ici les grands capitaines. Le véritable nom de Tom Merilyn était-il Agelmar Jagad ou Gareth Byrne? Il avait hâte de rencontrer ce type. Avant tout, pour lui demander comment il avait su que la haute dame viendrait à Eboudar. Tom lui cacherait peut-être le rôle joué par Sourotte, mais peut-être pas. Dans les hautes sphères, les alliés d'aujourd'hui pouvaient être les sacrifiés de demain. Si on acceptait les jardiniers, les gardes de la mort étaient des dacovalets de l'impératrice, puissent-elles vivre éternellement. Pourtant, ils gravitaient dans les hautes sphères.
Il doit bien exister un plan pour localiser et neutraliser ces troupes. C'est vous qui en êtes chargé ?
Non, que la lumière en soit louée !
S'écria Loon. Il but de nouveau, semblant regretter que ce ne soit pas de la gnôle.
Le général Chizen ramène son armée par le défilé de Malvide. Apparemment, le palais Tarassine a décidé que c'est assez important pour risquer des attaques venues du Murandi ou d'Andorre. Cela dit, d'après ce que j'ai entendu dire, ces deux pays, en ce moment, seraient incapables de faire du mal à une mouche. Ma mission, c'est d'attendre ici l'arrivée de Chizen. Après, les choses changeront, je suppose. Plus de la moitié de ces hommes sont des vétérans de chez nous.
Brusquement, Loon sembla se rappeler l'identité de son interlocuteur. Du coup, il se pétrifia, le visage de marbre. Aucune importance. Depuis le début, Karedi était sûr que Tom Merilyn, ou quel que soit son vrai nom, tirait les ficelles de tout ça. Dans d'autres circonstances, il aurait confié son raisonnement à Loon. En attendant, la haute dame ne serait pas en sécurité avant d'être de retour au palais Tarassin, parmi des gens qui connaissaient son visage. Si Loon avait refusé de le croire sur un point capital, la haute dame était bien ce qu'elle disait être, ça aurait aggravé les risques pour rien.
« Merci pour le caf »,
dit Karedi. Il posa sa tasse puis récupéra ses gants et son casque.
« La lumière vous garde, Loon. Un de ces quatre, nous nous rencontrerons à Seandar. »«
La lumière vous garde, Karedi »,
dit Loon, très surpris par ses adieux courtois.
« Oui, à Seandar, un jour ou l'autre. »
Loon lui avait offert du caf, et Karedi ne lui avait pas cherché querelle. Pourquoi cette surprise ? Karedi ne dit rien à Musenge avant qu'il soit assez loin du camp, les jardiniers à pied ouvrant la voie devant les gardes humains montés. Arta marchait à côté du cheval de Karedi, sa hache sur l'épaule et la tête presque au niveau des deux cavaliers.
« Direction le nord-est, »
dit Karedi,
« vers le défilé de Malvide. »
S'il se souvenait bien de la carte, pour ça, il lui suffisait en général d'un coup d'œil, il serait à destination dans 4 jours.
La lumière veuille que nous arrivions avant la haute dame.
Sinon, la poursuite continuerait jusqu'à Tarvalonne, si nécessaire. Abandonner avant d'avoir retrouvé la haute dame n'était pas envisageable. Et s'il fallait la sortir de force de la Tour Blanche, il le ferait.